France Culture. Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Cette année, l'Ukraine aura produit plus de 4 millions de drones, un chiffre d'autant plus impressionnant qu'ils sont presque autant à avoir été détruits. Alors, si l'utilisation des drones dans le conflit ukrainien n'est pas nouvelle, elle s'est accélérée ces derniers mois avec l'amélioration des moyens de production et des technologies qui permettent aux drones d'accomplir de nombreuses missions sur le front. Du renseignement au bombardement, en passant par le ravitaillement des troupes au front, sommes-nous donc entrés dans l'âge du drone ? Un invité ce soir pour nous éclairer. Vincent Touret, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Vous êtes doctorant à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, chercheur associé à la Fondation de Recherche Stratégique, auteur d'une note passionnante intitulée « Désigne, détruit, domine, la dronisation massive des opérations comme potentielle révolution militaire ». C'est une note que vous avez rédigée en juin dernier pour l'IFRI. Et à mes côtés, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Comme chaque mercredi, vous retrouvez est un plaisir. Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à vous deux d'être présent ce soir dans Question du soir.
Le deuxième défi pour 2026 sera aussi celui d'un passage à l'échelle pour la production en masse de drones. Cette rupture technologique vient transformer les conflits armés. On le voit en Ukraine et au Proche et au Moyen-Orient. Cela est vrai pour les États, mais aussi pour les groupes terroristes.
Est-ce que vous êtes d'accord, Vincent Touret ? On est là face à une rupture. La dronisation de la guerre marque une rupture fondamentale.
Oui, je pense, je vais pas aller à l'encontre de l'argument de ma note, effectivement, même si c'est plus une question, une problématique en cours qu'une réponse définitive. Ce qui m'a amené à cette conclusion, à cette qualification d'une révolution militaire, c'est le fait que le drone, aujourd'hui, si vous voulez, c'est plus simplement un appareil, c'est plutôt un principe donc de transformation. Vous aviez auparavant, je sais pas moi, une grenade, un obus, un missile. Aujourd'hui, vous pouvez droniser ces objets qui jusqu'à dans le passé étaient vraiment distincts. Le drone peut être une jumelle pour le combattant. Vous pouvez attacher votre grenade du coup à un objet qui peut aller extrêmement vite. Donc les FPV, c'est des petits appareils par exemple. On parle d'objets qui vont à plus de 100 km/h. Donc vous avez des appareils qui se retrouvent absolument dans toutes les fonctions militaires, que ça soit la reconnaissance, que ça soit la communication, que ça soit l'arme du fantassin, donc au contact, que ça soit sur le bombardement stratégique avec les campagnes de frappe russes malheureusement sur les villes ukrainiennes, mais les contre-attaques, on va dire, ukrainiennes sur les raffineries. Donc le drone est partout. Et pour moi, il est symptomatique en fait de plein de synergies technologiques qui se développaient depuis une trentaine d'années. Donc déjà la digitalisation, l'arrivée d'Internet dans nos vies. Ce qui est assez fascinant quand vous voyez la dronisation, c'est qu'en fait c'est un mode de production où on retrouve les codes du jeu vidéo, des influenceurs sur Internet, avec des cagnottes mises en ligne, avec la création de communautés pour soutenir les unités. Et c'est ensuite toutes les évolutions des moyens de production, comme vous l'aviez dit, donc l'impression 3D, etc.
Enfin, vous avez balayé beaucoup de sujets, on va les aborder point par point, parce que chacun mérite d'être creusé avec précision. Et le premier point, c'est vous qui l'abordez, Julien Bisson.
Oui, vous nous dites que le drone est partout, on a peut-être mis du temps à s'en rendre compte. Que pensez aujourd'hui du mur de drone, par exemple, qui est aujourd'hui promu par la Commission européenne? Ursula von der Leyen pousse un mur qui ferait presque 4000, il faudrait équiper 4000 km de frontières sur le flanc est-ouest. Est-ce que c'est possible, face aux incursions de drones qui viennent de l'Est, de mettre en place ce mur anti-drone, ou est-ce que ce serait une sorte de ligne Maginot qui ne protégerait pas du tout?
Alors, une ligne de défense, elle est effective si elle est capable déjà d'être réactive. C'est-à-dire que si vous construisez simplement des obstacles passifs, hein, la ligne Maginot était un bon exemple, que vous la concentrez uniquement sur une portion d'un périmètre à défendre, donc la frontière, vous allez pouvoir vous faire dépasser, contourner, l'ennemi rusera, il abusera du coup de vos défenses. Donc une défense doit nécessairement être réactive. C'est là où, et donc plutôt agressive. Si vous devez à la fois défendre, mais vous devez être capable aussi de contre-attaquer. Parce que sinon, vous laissez votre adversaire en fait en sécurité, donc vous lui laissez l'initiative, donc de choisir le lieu, le temps, le rythme et l'intensité de ses assauts.
Je voudrais qu'on parle du cas ukrainien qui est évidemment paroxystique en matière de dronisation de la guerre et vous faire entendre l'extrait d'un reportage diffusé en mai dernier dans C'est dans l'air où l'on entend la façon dont sont fabriqués des drones en Ukraine.
Ça, c'est du fait maison. Sur ce drone, on va y accrocher une bombe.
C'est ici qu'on fait notre recherche et développement et qu'on modernise certaines choses. Lui, c'est électronique. Il modifie, il fabrique des trucs. Il fait les systèmes de lancement comme ça. Personne ne l'aide, il fait tout seul. On fait la coque avec l'imprimante 3D. Il soude l'intérieur et c'est prêt. Le drone coûte 400 $. Un drone avec des explosifs, c'est à peu près 600 $. Si vous détruisez un tank ou un engin blindé, c'est parfait.
C'est un point fascinant dans votre note, Vincent Touret, la façon dont les drones sont conçus, fabriqués en Ukraine. Racontez-nous cela.
La façon la plus simple de l'expliquer, c'est que concrètement, c'est une arme de résistance populaire. C'est la dronisation. Elle se développe en Ukraine en fait depuis 2014, depuis l'occupation de la Crimée et la guerre dans le Donbass. Et c'est une arme d'abord du pauvre. L'Ukraine est un contexte très particulier où l'État était défaillant et où les citoyens ont dû s'organiser d'abord pour assurer en fait la nourriture, les gilets de protection des soldats, et qui au final ont dû eux-mêmes en fait innover, trouver des moyens de leur donner des moyens de répondre, de se défendre. Et les drones qui étaient en fait débutaient comme objet de loisir, de consommation, un objet civil, en fait se sont révélés extrêmement intéressants pour faire de la reconnaissance. Donc vous achetiez un drone chinois à moins de 1 000 €, et vous aviez comme ça un moyen qui vous permettait de regarder derrière les collines, derrière la forêt, donc c'était extrêmement intéressant pour eux. Et donc... aujourd'hui, en 2022, même après l'invasion de grande ampleur, ces initiatives qui étaient localisées, en fait, elles ont pu mûrir, elles se sont structurées, elles se sont institutionnalisées. Vous regardez des associations donc de civils ukrainiens comme Back Alive, en fait, maintenant, c'est des associations qui sont des mini-startups ou même des grosses entreprises, c'est plusieurs millions de fonds récoltés chaque année, et qui vont, en fait, eux-mêmes, effectivement, demander aux soldats leurs besoins, soutenir des ingénieurs... des ingénieurs sur le terrain, et qui vont donc créer tout un processus d'adaptation, d'innovation constante en bidouillant les pièces, etc. Et je terminerai là-dessus, ce qu'il faut bien voir, il faut pas dégager le drone comme une sorte d'aviation du pauvre ou comme quelque chose qui serait amené à disparaître. Parce que en fait, aujourd'hui, c'est vraiment des appareils, comme vous l'avez dit au début, qui sont utilisés par millions. Il y a un vrai besoin. On n'imaginerait pas le combat du fantassin sans grenade. Aujourd'hui, on ne peut plus l'imaginer sans FPV, sans drone à portée.
Julien Bisson.
Vous nous parlez ici des drones produits par l'Ukraine. Est-ce que ça veut dire que dans cette guerre, ils sont principalement les premiers à utiliser ces drones, ou est-ce que Ukrainiens et Russes les utilisent, en ont un usage différent ?
Alors effectivement, il y a des mentalités qui sont différentes et il y a des systèmes étatiques, publics et industriels qui sont différents. Pour schématiser, l'Ukraine, donc comme je viens de l'expliquer, c'est plutôt un phénomène, c'est une société plutôt d'initiative bottom-up, donc par le bas, pour juguler justement la faiblesse de l'État. Alors qu'en Russie, vous avez un schéma qui est beaucoup plus vertical, avec des grosses commandes publiques, donc beaucoup plus centralisé, beaucoup plus lent aussi, mais qui est capable de, une fois qu'il a décidé de quelque chose, de le produire en masse. Avant la guerre, vous aviez en Ukraine, de part et d'autre, vous aviez des drones produits par la commande publique. La Russie en avait l'extrême majorité, c'était les Orlan. Vous aviez plus de 1800 appareils, si je me rappelle bien, alors que l'Ukraine, vous étiez autour de peut-être une centaine d'appareils vraiment produits par l'État. Ce qui s'est passé donc avec le temps, c'est que chacun s'adapte aussi aux innovations des autres. Les Ukrainiens sont toujours les plus rapides, les plus réactifs, parce que justement, ils dérégularisent, ils laissent l'initiative en fait à leurs combattants, à leurs opérateurs pour innover eux-mêmes. Les Russes, en général, regardent la copie ukrainienne, s'en inspirent et ensuite systématisent les bonnes solutions. Ce qui devient par contre dangereux, c'est que, encore une fois, c'est un peu David et Goliath, pour parler très rapidement. Aujourd'hui, après 3 ans de bien plus de 3 ans de guerre, les Russes sont quand même en train de prendre un peu le dessus quantitativement, quoi.
Je précise simplement que vous utilisez un sigle depuis le début de cette expression, FPV, trois lettres pour dire First Person View. C'est au fond des drones qui permettent d'être guidés grâce à une caméra et donc d'être dirigés d'une manière quasiment immersive. On a parlé de la première force du drone qui est peut-être son prix, sa manière facile d'être produite. Est-ce que sa plus grande faiblesse, à l'inverse, c'est sa performance technique? Au fond, un drone, très très souvent, ça rate, ça manque sa cible.
Alors, ça c'est intéressant. Je dirais que c'est... Nous, on approche les nouveaux appareils, l'acquisition de nouvelles capacités, sous cette optique du coût-performance. Est-ce que c'est un peu comme quand vous regardez, je sais pas moi, le nouvel avion de chasse, il doit être le meilleur du monde, il doit... Voilà. La dronisation s'est faite sur une logique, on va dire, de goût des neufs, donc au juste besoin. Donc, pour les opérateurs, c'était pas très grave si le drone, il pouvait pas faire 100 km de portée, qu'il avait pas la portée, donc des grands drones étatiques des années précédentes. On pense par exemple au drone américain qui faisait des frappes ciblées dans le Sahel, qui étaient véritablement des aéronefs. C'est assez massif, un drone américain. Donc, le drone tel qu'il est construit aujourd'hui, il est construit pour une fonction précise, pour une portée précise. Et après, comme tout travail d'ingénieur, c'est des compromis. Le FPV, donc ce fameux drone qui est vraiment le drone munition, il est fait pour être utilisé une fois, pour être consommé, détruit sur une cible ou perdu. Et justement, il joue sur une baisse constante des prix et en simplifiant les appareils au maximum pour en fait les massifier constamment, pour que ça finalement ça leur coûte quasiment rien. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. Le FPV, il est utilisé pour aller. C'est 15-30 minutes d'autonomie. Par contre, ça va très vite. Donc, c'est pour agir dans une portée de 10 à 20 km.
On le redit, FPV, First Person View. Julien Bisson.
Ça, ce sont les capacités de ces drones. Est-ce que ça change la façon dont on doit s'en protéger? On entendait tout à l'heure dans le reportage, pour $600, on pourrait créer un drone qui va détruire un tank à plusieurs millions. Est-ce que ça veut dire qu'il faut adapter, il faut trouver des nouvelles mesures de protection?
Ouais, totalement. Déjà, c'est toute la conception de nos opérations qui doit changer. La dronisation, c'est deux effets majeurs, c'est deux conséquences. C'est un, c'est la transparence du champ de bataille. C'est-à-dire que vous avez désormais des caméras volantes qui filment en permanence les mouvements du terrain, et pas sur 5 km, mais sur 50, voire 70 km aujourd'hui.
Il n'y a plus de brouillard de guerre.
Ouais. Alors, le brouillard de guerre, ça prend aussi en considération la ruse. Il y aura toujours de la ruse. C'est comme le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, vous voyez les pièces de l'adversaire, mais vous pouvez ruser, vous pouvez créer une illusion, etc. Mais donc, vous avez une transparence. Donc, ça gêne les mouvements. Donc là, ça appelle, il faut déjà se camoufler. Il faut pouvoir s'enterrer, il faut pouvoir faire place nette, pas laisser de débris, de détritus, cacher les tracks des véhicules, etc. Donc, transparence. Ça, c'est la première conséquence. La seconde, c'est ce qu'on appelait déjà, à l'époque des années 80, avec l'arrivée des munitions de précision, la nouvelle létalité du champ de bataille. C'est-à-dire que concrètement, vous êtes dans là où les drones peuvent voler, surtout de 0 à 20 km, vous êtes sur une totale saturation. C'est vraiment un écran de feu, c'est une mitraille permanente. Vous bougez, vous êtes vu et vous pouvez être touché par 1, 2, 3, 4 appareils. Donc après, donc ça demande, on peut le voir sur les chars, donc les tankistes essayent de rajouter des couches de protection, du grillage, également des appareils de guerre électronique pour essayer de brouiller les appareils aux approches. Donc, quelque part, c'est du béaba de la guerre. Vous essayez de vous protéger, vous essayez de vous dissimuler, vous essayez de contrer l'adversaire, soit en interceptant ses munitions, donc la défense antiaérienne classique, soit en allant viser les opérateurs de drones adverses, en étant plus actifs. Pour revenir sur votre question du mur des drones, il ne faut pas simplement arrêter, intercepter des drones russes, il faut pouvoir menacer les pistes, les opérateurs de drones russes qui les lanceront hypothétiquement contre nous.
Dans cette dronisation que vous dessinez, décrivez, Vincent Touré, on a le sentiment d'être parfois face à un paradoxe d'un côté, des innovations technologiques qui progressent, qui transforment le champ de bataille, la manière d'aborder l'art de la guerre, et de l'autre, revenir à une dimension très rudimentaire dans la guerre, le fait d'étirer des filets de pêche, par exemple, le long des routes pour arrêter les drones, le fait de creuser des tranchées pour s'en protéger, le fait de se dissimuler aussi dans la forêt. On revient à quelque chose de très très basique aussi avec les drones dans la façon de conduire et de faire la guerre.
De façon générale, je dirais, excusez-moi, rhume de saison, la guerre c'est une sédimentation. La guerre, c'est, et la stratégie, c'est réussir à trouver des opportunités, à dégager de nouvelles ressources, à surprendre l'adversaire. Donc, il y a toujours une part de réinvention de l'ancien et de redécouverte de l'ancien dans tous les conflits. On oublie, par exemple, la Première Guerre mondiale est un bon exemple. Les gens redécouvrent les armures. Avant la Première, on n'avait pas de casque d'acier, on arrêtait de faire du génie à la Vauban, donc des tranchées. On a dû redécouvrir tout ça. Un autre exemple de comment la technologie réinvente les capacités, c'est par exemple la cavalerie. La cavalerie n'a jamais cessé d'exister. Par contre, elle n'est plus du tout à cheval. Elle s'est motorisée. Et aujourd'hui, on a même de la cavalerie mécanisée, puisqu'on a toujours besoin d'une fonction, d'une capacité de cavalerie, c'est-à-dire une unité capable d'aller vite, qui est mobile, qui est agile, qui peut un peu se dissimuler, qui est discrète, et puis reconnaître l'adversaire.
Je voudrais vous faire entendre une archive assez incroyable qui date de 2001, un extrait du reportage d'Anne Guéry, diffusé alors dans le JT de France 2.
Il est complètement télécommandé, mais il peut voler aussi en autonomie pendant toute la durée de sa mission. La plupart de ces avions volent 40 ou 50 heures. Ainsi, nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir une image vidéo en temps réel d'un champ de bataille.
C'est ce modèle que les États-Unis auraient lancé au-dessus de l'Afghanistan. Mais en plus des caméras, l'appareil serait équipé de 2 missiles anti-chars. Pour l'heure, ces armes n'auraient pas été utilisées, même si les occasions n'ont pas manqué. Ces avions de reconnaissance vont-ils se transformer en force de frappe ? Probablement pas, selon les experts. En revanche, ils pourraient se révéler très utiles pour atteindre des cibles très précises, des cibles avec pour nom, par exemple, Oussama Ben Laden.
Julien Bisson.
Alors Vincent Touré, est-ce qu'on a fait preuve de naïveté en 2001 en pensant que ces drones n'étaient pas là pour tuer, ou est-ce que simplement leurs capacités ont évolué ?
Je dirais que le premier problème qu'on a, c'est finalement le terme de dronisation et de drone. Parce qu'en fait, quand on voit les appareils de l'époque, on est sur des catégories, des générations d'appareils, des technologies, du coup, qui sont très différentes.
Vous l'avez dit, c'était des gros appareils, de véritables aéronefs, quand on revoit les images.
Et qui finalement revenaient assez cher. Pardon, j'ai perdu.
Sur la façon dont on a été peut-être naïf à cette époque, ou bien au contraire, on n'a pas su mesurer l'évolution de ces technologies.
C'était des programmes sophistiqués, avec des appareils qui étaient très complexes. Et donc, en fait, on le voit, il faut bien 20 ans avant qu'il y ait une démocratisation, une simplification des appareils qui permettent du coup d'être massifiés. On avait déjà eu des antécédents dans les années 2010, surtout du côté des Turcs, qui étaient les plus innovants là-dessus, qui avaient commencé déjà avec le drone TB2 à avoir un drone tactique un peu plus massifiable, un peu plus facile d'emploi. Mais là encore, on restait quand même sur des appareils chers. Un TB2, c'est entre 3 et 4 millions de dollars. Mais donc, il faut bien voir, c'est un processus évolutif. Et on parlait vraiment de catégories d'appareils qui étaient différentes, avec en 2001 plutôt des appareils qui ressemblaient en fait à de l'aviation robotisée.
Mais je me permets de vous couper et d'insister, Vincent Touré. Quand même, lorsque des experts, donc des personnes capables de se projeter quand même dans l'avenir, de mesurer l'évolution des technologies, de réfléchir également aux questions éthiques liées à la guerre, lorsque ces gens nous disent concrètement que ces aéronefs ne seront pas utilisés pour tuer, de qui se moque-t-on, pour le dire poliment ?
Alors déjà, je connaissais pas, je connais pas les experts qui ont donné cet avis-là à l'époque. Mais après, nous, on n'est pas devins. On est obligé de la prospective. C'est un art très difficile. On parle déjà, on essaye effectivement d'imaginer, on va dire, l'avenir, mais de façon réaliste. Et j'aimerais quand même rappeler le caractère extraordinaire à chaque fois de l'évolution des technologies pour qu'on ait la dronisation actuelle, pour qu'on passe du modèle de 2001. Au modèle d'aujourd'hui. En fait, il y a une explosion de technologies différentes qui est incroyable. 2001, l'Internet commence à devenir un phénomène de masse. Aujourd'hui, les savoirs pour coder, l'appropriation des réseaux sociaux, la capacité donc de se coordonner individuellement et massivement, en fait, est devenu quelque chose du quotidien. Tous ces moyens-là étaient pas encore accessibles. Il a fallu également une guerre de haute intensité pour que, en fait, les institutions militaires se rencontrent les sociétés civiles. Parce que il faut pas l'oublier aussi. Après la guerre froide, pendant trentaine d'années, institutions militaires et monde civil ne se parlaient quasiment plus. Et donc, tout le foyer d'innovation, toute la connaissance des technologies du quotidien infusait aussi beaucoup moins vite. Donc, voilà.
Julien Bisson.
Est-ce que cette dronisation, cette révolution militaire dont vous nous parlez, peut aussi conduire à une forme de révolution géopolitique dans laquelle les forces entre les puissants et les faibles seraient nivelées par l'usage des drones.
Il y a alors c'est encore une fois je veux dire ça dépend, c'est compliqué. En tout cas, l'accès à la troisième dimension et la maîtrise de d'une capacité qui jusqu'à maintenant était réservée aux grands États avec des BITD, hein, donc des bases technologiques et industrielles de défense très 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 poussées. Donc la capacité de frapper avec précision.
La troisième dimension, c'est le ciel, hein.
La troisième dimension. Donc la capacité depuis la troisième dimension de frapper précisément des individus, des véhicules, etc. est effectivement en train de se démocratiser au reste du monde. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'en plus, beaucoup de nos adversaires, les Russes d'ailleurs les premiers, ou les Iraniens, jouent justement sur la prolifération de ces technologies pour nous créer des problèmes au Sahel, en Afrique, au Moyen-Orient, etc.
Voilà. Je voudrais que l'on parle des drones toujours, mais que l'on évoque cette fois-ci l'usage policier qui est fait des drones à travers un exemple dans la région PACA, à Menton plus exactement, où la police traque désormais les migrants avec des drones.
Olivier, prêt ? Mise en route. Le but de la mission là aujourd'hui est véritablement d'effectuer une mission de reconnaissance sur les chemins qui sont habituellement empruntés par des personnes souhaitant se rendre sur notre territoire illégalement.
On a un grillage qui a été visiblement coupé et replié sur lui-même pour favoriser certainement le passage de personnes.
On va orienter nos effectifs au sol et à partir de là, c'est des éléments qui nous aident et qui nous guident.
On est dans un programme de frontières intelligentes où je pense que la technologie va prendre de plus en plus le pas. Et tout cela, évidemment, devra être encadré juridiquement, mais c'est très certainement l'avenir. Oui.
C'est une chose, une tendance qui est amenée à se normaliser, Vincent Tourret, le fait que des services de police utilisent des drones pour repérer des personnes réfugiées en France ?
Je dirais, là encore, la catégorie drone est très vaste. Vous avez, par exemple, des drones agricoles, vous avez des drones pour surveiller l'état des lignes électriques, donc vous avez des drones d'ingénierie, etc., de surveillance. Donc, qu'il y ait des drones de police, en soi, pour moi, c'est pas une rupture ou c'est pas aussi signifiant, c'est pas forcément une militarisation de la police. Par contre, vous avez effectivement des modèles militaires qui peuvent être détournés à des fins policières. Je pense notamment aux États-Unis, où il y avait eu le survol du centre-ville de Los Angeles par un MQ-9, si je me souviens bien. Là, effectivement, là, c'est beaucoup plus symbolique. Puisque là, vous avez l'usage d'un appareil militaire à des fins de contrôle des foules ou de surveillance des foules, etc.
Voilà. Julien Bisson.
Vous parlez de culture du dronisme. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une acculturation aujourd'hui déficiente de la société à la nature et l'usage de ces drones ?
J'ai couvert les aspects culturels parce que je vais dire que je suis un pessimiste actif. Et donc je suis on est face à une technologie.
C'est-à-dire un pessimiste actif.
Un pessimiste actif parce que on voit les développements de la guerre en Ukraine, on voit la dronisation, il y a une certaine déshumanisation du conflit. C'est pas les drones ne sont pas des objets rassurants et c'est normal, une grenade n'est pas rassurante, une munition n'est pas rassurante, donc pourquoi les drones le seraient ? Mais dans ce pessimisme-là, plutôt que de dire il faudrait absolument, par exemple, interdire les drones, ou il faudrait absolument interdire les robots dans la guerre, etc. Et attention, je fais une distinction avec l'intelligence artificielle. Pour l'instant, un drone, derrière chaque drone, vous avez un opérateur humain. Je me disais, plutôt que de se cacher de cette technologie qui fait peur, autant s'y préparer activement. Et une préparation active à l'arrivée d'une nouvelle technologie, c'est de comprendre déjà qu'elle est parmi nous, qu'il faut en comprendre les usages, les pratiques, et en fait en discuter, et se retrouver pour en discuter. Et donc l'exemple que j'avais en tête, c'était notamment l'introduction de l'aéronautique en France, où c'était dans les années 30, avec l'arrivée du Front Populaire notamment, on avait mis en place les aéroclubs. On s'est dit, l'aéronautique devient un vrai sujet, notamment un sujet militaire, il va falloir qu'on ait un pool de réservistes d'aviateurs compétents, qu'on ait des compétences d'aviateurs dans la population civile, donc créons des fédérations, des associations, donnons un peu de fonds aux aéroclubs pour notamment ouvrir leur rang à des catégories de la population moins aisée. Et quelque part, je me dis aujourd'hui, il faudrait faire le même effort, parce que les drones sont parmi nous, autant préparer, sensibiliser les gens au fait que ce sont des engins potentiellement dangereux. Et donc, il faut savoir les utiliser correctement.
Voilà. Merci beaucoup, Vincent Entouré, de ces explications, de ces éclairages sur une tendance de fond, la dronisation. Je rappelle le titre de la note que vous avez signée pour l'IFRI, « Désigne, détruit, domine, la dronisation massive des opérations comme potentielle révolution militaire ». Et je me tourne vers vous, Julien Bisson, qu'est-ce que l'on trouve dans l'extraordinaire hebdomadaire Le 1 cette semaine ?
Eh bien, c'est le dernier numéro de l'année, à quelques jours des fêtes de famille, où l'on se retrouve pour le meilleur et pour le pire. On se demande comment survivre à sa famille. Des réponses avec la sociologue Irène Théry, le psychiatre Serge Effèze ou encore le psychologue Bruno Hembeck.
Vaste question. Merci beaucoup et merci également à celles et ceux qui ont fait et pensé cette émission. Bruno Barada, Rodi Eken, Audrey Carme à la réalisation, François Richer.